Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc sur Radio Zinzine et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Cette émission est préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la réalisation technique. Aujourd'hui, c'est le 10e numéro. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser aux pêches méditerranéennes qui, à travers leur histoire, nous renvoient quand même à l'actualité, ce qui est toujours intéressant quand on fait de l'histoire. Notre invité est aujourd'hui Daniel Faget. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à Aix-Marseille Université, à MU, plus précisément dans le laboratoire TELEM, donc ça veut dire temps, espace, langage, Europe méridionale et Méditerranée, qui fait partie de la MMSH, donc Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, avec qui nous travaillons souvent, puisque vous êtes le 4e ou 5e de la MMSH à venir nous voir, et on vous accueille toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, votre travail est prioritairement orienté vers l'étude des pêches, comme objet à la fois technique, économique et écologique, dans la période moderne et contemporaine, et vous privilégiez une approche plutôt pluridisciplinaire, ce qui est toujours intéressant dans la recherche et qui renouvelle quand même un petit peu les choses. Vous avez co-dirigé un travail collectif sur ce thème-là, donc des pêches aux éditions de la MMSH en 2015, et puis vous avez publié deux autres enseignants de la MMSH, La mer en partage, au PUP, aux presses universitaires de Provence, et également les cailles et le banc, récemment, au PUP aussi, donc sur les ressources de la Méditerranée dans la période moderne. Voilà, j'ai fait à peu près l'inventaire des choses,
oui, je vous remercie.
Des choses récentes. J'ai pas réussi à trouver le dernier chez Goulard, donc les cailles et le banc, c'était en rupture apparemment.
Bon, tant mieux.
C'est plutôt bon signe. Tant mieux. Voilà, donc sur ces pêches en Méditerranée, ben, nous allons évoquer quelques thèmes qui vont certainement intéresser nos auditeurs. Et donc, le premier thème, c'est sur les particularités de la pêche en Méditerranée. C'est un milieu particulier et ça se ressent à la fois sur la pêche, sur les paysages. Cette pêche qui fait partie de l'identité méditerranéenne, on imagine toujours la Méditerranée avec un bord de mer, une mer bleue et des bateaux de pêche au loin. C'est un petit peu ça, c'est un peu une image d'Épinal, mais ça indique quand même que ça fait partie de l'identité méditerranéenne. Alors ces particularités, quelles sont-elles du milieu et de la pêche en elle-même ?
Je crois qu'il y a une particularité par laquelle il faut commencer, c'est l'ancienneté. La pêche est pratiquée en Méditerranée depuis au moins le néolithique. Et on a donc là des activités très très anciennes avec un empilement de savoirs, de techniques, d'engins de pêche différents qui, pour certains, pas pour tous, parce que certains sont assez récents, mais d'autres sont très anciens et sont arrivés peut-être pas en droite ligne, mais avec quelques zigzags jusqu'à la période actuelle. Alors, ancienneté, diversité des pratiques de pêche et fragilité aujourd'hui, remise en question, tant il est vrai que cette activité identitaire, eh bien, on peut se demander si elle va continuer longtemps, si elle n'est pas arrivée au bout d'une logique, et je crois que nous aborderons cette thématique dans les minutes qui viennent.
Oui, bien sûr. Et cette ancienneté, en fait, est-ce que, je vais faire le néophyte complet là, est-ce que cette ancienneté, c'est par rapport au néolithique, par exemple, est-ce qu'on trouve des endroits où on a un tel développement de la pêche comme en Méditerranée, ou est-ce que ça tient au milieu méditerranéen qui a favorisé justement le développement assez ancien de la pêche ?
Il est probable que l'ancienneté des civilisations autour de la Méditerranée a permis de développer les pêches, peut-être avant d'autres zones en Europe, sur les littoraux atlantiques, je pense. Mais la pêche à pied est pratiquée depuis très très longtemps, y compris sur l'Atlantique. Et les premières pêches qui ont été pratiquées étaient des pêches à pied, y compris en Méditerranée. Donc il y a peut-être, je dirais, en Méditerranée, une mise en forme de techniques nouvelles qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que c'est un milieu spécifique, avec des poissons spécifiques, avec des conditions spécifiques. Et effectivement, on va trouver en Méditerranée des choses assez originales qu'on ne trouve pas sur l'Atlantique. Mmh. Je pense en particulier à des pêcheries comme les bordigues sur les gros qui permettent de faire la liaison entre la pleine mer et les lagunes. Je pense aux madragues, dont l'ancienneté est parfois contestée, mais qui sont des pratiques très anciennes. Je pense aussi à l'usage de nasses qui est très développé, qui sont constitués d'ailleurs de matériaux différents en fonction de l'endroit où on se trouve, mais c'est un usage très très développé. Donc ancienneté, diversité, pratique identitaire, on ne peut pas penser l'histoire de la Méditerranée sans faire référence aux pêches. Les pêches ont été en quelque sorte une matrice de la culture méditerranéenne, un élément identitaire très fort. La gastronomie, évidemment, la cuisine, l'alimentation, les ressources alimentaires, mais aussi un style de vie qui est un style communautaire, qui là est vraiment quelque chose de spécifique à la Méditerranée, les confréries, les prud'homies, les associations de pêche, qu'on ne retrouve pas aussi développées sur les océans, sur les côtes océaniques.
Oui, donc c'est à la fois novateur et particulier. Oui, comme, oui. Comme activité, cette pêche. Et donc, pour travailler, moi, il y a quelque chose qui m'a interrogé, là. Sur la pêche du néolithique, par exemple, quelles sources on a parce que c'est quand même compliqué, là, cette activité qui est...
Oh là, on va se contenter de sources archéologiques.
Voilà, hein, oui.
Et on va se... Alors, c'est d'ailleurs difficile, parce que la Méditerranée est assez avare de vestiges relatifs aux pêches pour ces périodes-là. Nous n'avons pas, comme sur l'océan, des estrants importants, des mouvements de marée, des processus de sédimentation susceptibles de conserver dans des milieux anaérobies, des pieux de bois, des pièges à poissons. Et donc, c'est vrai qu'en Méditerranée, il nous manque ces vestiges-là. En revanche, on va trouver des pesons de filet, on va trouver des hameçons, on va trouver des choses qui ont été conservées, qui démontrent que la pêche existait.
Mmh. D'accord. Et donc, cette pêche ancienne a perduré donc pendant des siècles. Et pendant ces siècles, donc, on a assisté à une évolution à la fois des techniques, des pratiques de cette pêche. Et donc, l'histoire a quand même apporté un apport considérable sur la connaissance de ces techniques et de ces pratiques.
Oui, mais je crois qu'il faut rappeler, si vous le voulez bien, quelques phases qui me semblent importantes dans l'histoire de ces pêches en Méditerranée. La pêche méditerranéenne est une activité très développée sous l'Empire romain et dans la culture grecque. On en trouve trace dans les mosaïques, on trouve d'ailleurs ces mosaïques nous renseignent sur les techniques, elles sont très très richement illustrées. En revanche, après la chute de l'Empire romain et le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, on assiste à un repli des pêches dans les eaux lagunaires ou continentales pour plusieurs raisons. D'une part parce que les ports sont en partie abandonnés, ils sont envasés, on ne les utilise plus. Les grands marchés de distribution du poisson qui irriguaient toute l'Europe du Nord par les voies romaines sont déstructurés. Et puis l'insécurité règne sur le littoral, ce qui fait que les communautés répugnent à s'aventurer vers le large parce qu'il y a des pirates, il y a des sarrasins, il y a des razzias. Et donc les communautés littorales vont se replier sur les eaux intérieures. Et il faut attendre finalement l'extrême fin du Moyen-Âge, le 15e siècle, pour que ces populations se tournent de nouveau vers la mer ouverte et repartent à la conquête de la mer ouverte. Et là, c'est un moment très très important, parce que nous sommes à la fin du Moyen-Âge, les structures foncières, agraires sont désorganisées par la guerre, par la peste noire, et l'urgence est de nourrir les marchés, de trouver en fait des approvisionnements. Et on a le sentiment que la pêche, à partir du XVe siècle, en tout cas dans le bassin nord-occidental, sur la côte nord-occidentale, la pêche va être une réponse à la pénurie alimentaire. Et cette réponse à la pénurie alimentaire, elle ne peut se faire que par des innovations radicales. Ces innovations radicales, je crois qu'il faut en citer deux. C'est d'une part l'invention du sardinal, un filet dérivant destiné à pêcher le petit poisson bleu, les sardines, les atterrines, les anchois. C'est une invention qui se produit en Provence, dans le golfe de Marseille. La première mention, c'est 1434. hein, ce qui est assez tôt. Et puis la deuxième invention, c'est le filet traînant, c'est-à-dire l'ancêtre du chalut, qui apparaît quelques décennies plus tard, dans les mêmes eaux, dans les mêmes endroits. Et ces deux inventions, le sardinal, le filet traînant, vont révolutionner les pêches en Méditerranée parce qu'elles sont extrêmement productives et qu'elles vont apporter finalement une réponse à la demande des marchés. Et ça, c'est intéressant de le dire parce que bien souvent, on continue de lire dans certains ouvrages que c'est le Concile de Trente qui a réactivé la pratique de la pêche parce qu'il y a eu des interdits alimentaires, parce qu'il fallait manger de nouveau du poisson le vendredi ou bien lors de l'Avent ou à des moments particuliers de l'année liturgique. Or, on s'aperçoit que le renouveau des pêches en Méditerranée, il précède de plusieurs décennies le Concile de Trente. Donc, il s'est bien passé quelque chose avant, à un moment d'ailleurs où la crise économique était profonde, tant en Catalogne qu'en Provence, que sur les côtes du Latium, par exemple. Hein. Donc, le XVe siècle est un moment de grande bascule, et à partir de là, on assiste à une évolution de la technologie par bond, avec une poursuite de technologies de plus en plus productives. Et il faut le préciser, hein, ces technologies nouvelles coûtent cher. La fabrication d'un sardinal est onéreuse, l'achat d'un filet traînant est onéreux, il faut des embarcations de plus en plus puissantes. Et ces innovations marquent le début d'un clivage social, d'une déstructuration des communautés de pêche, avec en particulier une marginalisation des plus pauvres, qui vont se retrouver finalement dans une situation de dépendance vis-à-vis de patrons beaucoup plus riches.
C'est-à-dire que socialement, on est quand même passé d'une activité un peu obligatoire de subsistance à une activité plus spéculative. Et donc ça explique peut-être cette dissociation sociale à propos de cette activité
oui,
de pêche.
Et je dirais une activité qui était un peu obligatoire et qui était pensée collectivement et pratiquée collectivement. Parce que la pêche la plus pratiquée jusqu'au XVe siècle, c'était une pêche qui se faisait depuis le bord avec une senne, c'est-à-dire un filet. On lui faisait effectuer une boucle vers le large et puis on le tirait vers la plage, hein, et ça nécessitait des dizaines de bras. C'était donc une organisation collective qui permettait, y compris aux plus pauvres, d'avoir droit à un lot de nourriture. Or, l'invention des techniques nouvelles ruine la scène, la vieille scène antique, et elle ruine aussi la pêche à pied, parce que ce à quoi on va assister dans les siècles qui suivent, et jusqu'au XIXe siècle, c'est un appauvrissement des zones les moins profondes. Le chalut traînant a des conséquences absolument dramatiques pour le poisson benthique, en particulier le poisson de fond. Et cet appauvrissement, il se traduit par des clivages et des tensions sociales de plus en plus affirmées au sein des communautés.
Oui, on a donc déjà, dès ce moment-là, une atteinte au milieu.
On a une atteinte au milieu qui se vérifie sur certaines espèces.
Hein,
lorsque la Révolution se produit, par exemple, les chroniqueurs nous expliquent que dans le golfe de Marseille, les arapèdes sont de moins en moins nombreuses, sont en train de disparaître. Le merlan devient rare. Et puis aussi, ces tensions, les mesures à l'agressivité des communautés de pêche contre ceux que l'on va commencer à considérer comme des concurrents de la pêche, c'est-à-dire les mammifères marins.
Ah oui, d'accord.
Qui sont victimes d'une détestation montante et d'une systématisation des massacres durant tout le XIXe siècle, avec l'aide d'ailleurs de l'État, avec l'aide de la marine, avec l'aide des scientifiques, des océanologues, avec tout un tas de pièges qui sont mis au point. Et ce qui est troublant dans cette affaire-là, c'est que finalement, les pêcheurs méditerranéens ont toujours, en tout cas les Provençaux, ont toujours détesté les dauphins, qu'ils ont toujours considérés comme des concurrents. Mais là, à partir de 1840, 1835, 1840, on assiste en Catalogne, en Provence, en Italie, à une explosion de la violence contre les mammifères, contre les dauphins, les marsouins, les phoques moines. Même chose en Adriatique. Et de cette volonté de faire disparaître les concurrents, naît aussi ce que moi j'appellerais la genèse d'une pensée exterminatrice. C'est très troublant. Au tout début du XXe siècle, la marine française a tout essayé pour détruire les dauphins. On a distribué des armes aux pêcheurs, on a même bombardé les dauphins, on tire au canon dessus, etc. Rien n'y fait. Et donc, les militaires français commencent à expliquer que le seul moyen de réussir une extermination, c'est de la rentabiliser. C'est de faire de l'extermination quelque chose qui va rapporter. Et évidemment, après coup, ça fait frémir quand on lit les textes, parce qu'il y a là une pensée de l'extermination contemporaine. Et elle se traduit d'abord contre les mammifères marins, et elle se traduit parce que les communautés de pêche sont en situation de plus en plus difficile vis-à-vis de ces concurrents qui, évidemment, s'attaquent au filet, sont considérés comme des animaux voraces.
On va faire une petite pause musicale.
Son copas cus, oe nida, oe nida, que pico más una locura.
C'est une chanson de corailleurs, des pêcheurs de corail, dont l'origine est difficile à trouver. Est-ce que c'est sicilien, est-ce que c'est sarde, est-ce que c'est napolitain, calabré, on a du mal à savoir. On arrive à peu près à deviner ce que ça veut dire. Donc, mets le corail rouge dans la balance. En gros, c'est ce que voudrait dire la première phrase. Et regarde le résultat, c'est-à-dire regarde le poids. On imagine que c'est pour se faire payer. Voilà, donc ça doit être... Je pense que ça doit être ça. C'est certainement ça. Donc, on en était donc au 19e siècle avec ce massacre des mammifères marins. Ce qui nous étonne, nous, aujourd'hui, quand même, cette espèce de folie meurtrière, c'est presque ça, non ?
Oui, folie organisée tout de même. Il y a une volonté réellement très 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 pensée, très très rationalisée d'exterminer en fait ces animaux. C'est quelque chose qui ne va pas fonctionner puisque les pêcheurs n'arriveront pas à éliminer tous les animaux marins, tous les mammifères marins, sauf pour les phoques moines qui sont à peine quelques centaines aujourd'hui en Méditerranée, dont on peut penser que l'espèce est sans doute condamnée, mais ils n'y arriveront pas. Et on assiste, après la Seconde Guerre mondiale, au début des Trente Glorieuses, à un extraordinaire retournement, finalement, de l'image de ces animaux marins, puisqu'aujourd'hui, on a affaire à des animaux qui sont sacralisés et on tombe dans la même irrationalité, finalement, que celle qu'on pouvait lire ou analyser pour le XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on fait de dauphin l'ami de l'homme, quasiment l'égal de l'homme, et en même temps, ça masque des attitudes très ambiguës vis-à-vis de ces populations animales. Je pense au Marineland, où finalement ce sont d'immenses prisons pour animaux et qui attirent toujours autant de monde. Je pense aussi au fait que les mêmes gens qui vouent un culte aux dauphins n'hésitent pas à décrier ou à éprouver de l'effroi vis-à-vis d'animaux dits inférieurs, les méduses ou le requin, ce grand prédateur de Méditerranée qui a quasiment disparu. Donc on est toujours dans une phase finalement de relations non apaisées, je dirais, vis-à-vis de la mer. Mais ça, ce n'est pas vraiment la faute des pêcheurs.
Oui. Et donc les images qu'on peut voir, c'est en Sicile cette pêche au thon qui est absolument qui prend des allures de massacre.
Oui. Les madragues siciliennes ou celles de Sardaigne. Alors il y en a quasiment plus en Méditerranée. Elles étaient environ 200 au XVIIIe siècle. Il en reste en activité trois. Dont une est vraiment une activité, je dirais, uniquement pour le tourisme. Les thons sont présents en Méditerranée. On ne les pêche plus avec des madragues. L'espèce a été sérieusement menacée il y a une vingtaine d'années. Des quotas ont été mis en place. C'est d'ailleurs l'une des seules espèces avec l'espadon qui bénéficie de quotas. Ces quotas ont fonctionné puisque la biomasse des thons s'est en partie reconstituée. Mais les madragues, je dirais aujourd'hui, elles sont devenues anecdotiques, alors qu'elles ont compté énormément dans le passé de la Méditerranée. C'était des grandes pêcheries des grandes pêcheries qui coûtaient très cher, qui nécessitaient des investissements très élevés et qui bien souvent échappaient aux communautés puisqu'elles étaient des privilèges de la noblesse. Et que ces nobles qui possédaient par privilège des madragues les concédaient eux-mêmes à des fermiers qui étaient pour la plupart des gens de terre. Ce n'étaient pas des gens de mer, c'était des marchands, des négociants de la ville qui embauchaient eux-mêmes un équipage, qui embauchaient des matelots, mais qui n'étaient pas issus de la communauté. Et donc ces madragues, elles ont suscité, dès le XVIIIe siècle, l'hostilité des communautés. L'hostilité parce qu'ils désignent ce qu'ils appellent ces compagnies, des compagnies, comme finalement des monopoles insupportables pour la pêche et pour la vie, la survie de leur communauté, au point que ces madragues seront interdites et supprimées au XIXe siècle pour la plupart d'entre elles. Aujourd'hui, on revient un peu sur cette expérience et on s'aperçoit que ces madragues, si elles étaient réactivées, concédées aux communautés de pêche aujourd'hui, permettraient peut-être de développer une pêche durable parce que ce sont des engins qui sont sélectifs. Ce sont des engins qui sont sélectifs et qui nécessitent aussi, sur leur périphérie, des zones de protection intégrale. Et donc ces madragues, si on les réactivait, elles obligeraient à repenser les usages de la mer et à redonner aux communautés, finalement, un accès de plein droit et un contrôle réel d'une portion du littoral.
Oui, ça rendrait la pêche un peu plus... D'abord, peut-être un peu plus efficace et puis un peu plus durable, avec un renouvellement des espèces. Rappelons ce que c'est les madragues, parce que peut-être que des gens...
Alors, les madragues, c'est sans doute les pièges à poissons les plus spectaculaires qui existent dans le monde. Ce sont d'immenses murailles perpendiculaires au littoral, qui peuvent descendre jusqu'à 40 mètres de fond. Il faut imaginer un mur littoral. Les pêcheurs appellent ça la queue de la madrague ou le pied de la madrague. Ce mur s'éloigne vers le large et détourne en fait la migration du thon vers des chambres de capture qui sont d'immenses nasses enfilées. Et les thons passent d'une chambre à une autre jusqu'au moment où ils se retrouvent piégés dans une chambre plus petite qui a une particularité, c'est que son fond remonte, son fond est amovible. Et lorsque les poissons se retrouvent dans cette chambre de la mort, eh bien on va remonter le filet jusqu'à la surface pour pouvoir les harponner. Alors c'était un spectacle absolument extraordinaire qui attirait des gens du littoral, des touristes, des voyageurs. Et tout cela se faisait dans une sorte d'effervescence qui, moi, me rappelle un peu la corrida quand même. Hein, cette fascination pour le sang, cette transe collective qui s'empare des spectateurs. C'était un spectacle réellement impressionnant. Tous les témoignages nous le racontent. Certaines madragues, aujourd'hui, des petites madragues, ont été réinstallées. Il y en a une en particulier à Camoli, à côté de Portofino, dans le golfe Ligure, qui est une petite madrague alors de nouveau type. Hein, c'est une mini-madrague qui a été installée par la communauté des pêcheurs de Portofino. Et c'est une madrague qui est constituée essentiellement en matériaux biodégradables, du chanvre et de la fibre de coco. Dans une idée qui est évidemment très, très louable, hein, les pêcheurs considèrent qu'il faut désormais pratiquer une pêche durable, respectueuse de l'environnement, et qu'en cas de tempête, au moins on a la certitude que si la madrague est arrachée, elle ne terminera pas hein, ce qu'on appelle les gosses pêches, hein, c'est-à-dire les pêches fantômes, hein, les engins de pêche qui sont perdus au fond et qui continuent de pêcher sans aucun contrôle. Il faut savoir qu'en Méditerranée aujourd'hui, 1% des filets sont perdus tous les ans dans le bassin méditerranéen.
C'est beaucoup.
Et c'est énorme. Et ce sont des filets qui continuent réellement de pêcher, qui capturent en pure perte.
Oui, voilà. C'est ça, oui. Hein,
donc là, les pêcheurs commencent à en prendre conscience. Il y aurait d'autres solutions, hein, sans doute, en particulier aujourd'hui la technologie, le système GPS pourrait très bien imaginer de fixer une puce sur les filets.
Oui.
Et on retrouverait les filets quand ils se perdent sans aucune difficulté.
Ouais. Oui, plutôt que de les laisser traîner au fond de l'eau.
Bien sûr.
Et de causer des dégâts.
Ça, ce sont des choses que la technologie pourrait apporter pour une pêche plus durable et plus respectueuse. Et donc, il y a des solutions. Il y a des solutions, mais je crois que la crise de la pêche actuelle, c'est d'abord une crise des fonctions d'usage. C'est-à-dire qu'on a affaire à un littoral qui est considéré comme une immense zone récréative. Et des pêcheurs qui sont relégués, finalement, au décor, au paysage. Or, nous savons que Les ressources de la mer sont absolument essentielles dans les décennies qui viennent, et en particulier si nous arrivons à créer des circuits de distribution courts, évitant trop les émissions de carbone, avec des poissons labellisés, une variété dans les espèces. Et donc, il est aujourd'hui indispensable de soutenir les pêches artisanales, parce que ce sont des pêches d'avenir, à condition qu'on leur donne les moyens d'exister, et à condition aussi qu'on qu'on oblitère pas, qu'on n'occulte pas toute la responsabilité qui a pu être celle des pêcheurs dans l'appauvrissement des stocks.
Et donc, ce rejet un peu de l'activité de pêche, enfin en tout cas ce retrait de l'activité de pêche, auquel s'ajoute donc la surexploitation, réduit finalement considérablement et pose vraiment un problème très 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 global de la pêche, alors peut-être hors de la Méditerranée, mais dans la Méditerranée en particulier quand même, étant une mer plus fermée, peut-être donc plus fragile de ce point de vue-là.
Oui, alors deux remarques à ce sujet. Effectivement, la Méditerranée connaît des problèmes que l'on rencontre aussi dans les autres espaces océaniques. Les solutions sont en Méditerranée les mêmes que celles que l'on peut mettre en œuvre ailleurs. Il faut d'une part multiplier les aires marines protégées avec des zones de protection intégrale qui sont des zones qui permettent en fait de diffuser le poisson et de diffuser, d'exporter le poisson et de diffuser les embryons, les œufs de poisson, sur de grandes distances. Et donc, les AMP sont des pépinières, en fait, du vivant. On a constaté que partout où on les avait mises en place, ces AMP, ces réserves intégrales, les résultats de pêche étaient meilleurs. Et les pêcheurs commencent à le comprendre. Surtout lorsqu'on les associe à la gestion de ces aires marines protégées et qu'on fait d'eux des acteurs responsables, en fait, de la gestion de la ressource. Donc il faut multiplier ces AMP, elles sont trop insuffisantes, trop peu développées aujourd'hui en Méditerranée. Songez qu'aujourd'hui, à peine 0,04% de l'espace méditerranéen est en zone de protection intégrale. C'est très très peu.
Oui, ça mériterait d'être un peu plus étendu.
Et donc il faut aller vers ça aujourd'hui, autrement on n'y arrivera pas. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'on nous propose parfois comme solution à la crise des pêches le développement de l'aquaculture. Alors c'est une imposture qu'il convient de démasquer. L'augmentation de l'aquaculture, de la production du poisson d'aquaculture, est équivalente à ce que nous avons perdu en poissons de capture. C'est-à-dire que si on fait le bilan depuis 20 ans, la production mondiale de poissons stagne. Et elle a même tendance à diminuer un peu. On a perdu 20 millions de tonnes à l'échelle mondiale. En Méditerranée, c'est le même mécanisme. C'est très préoccupant parce que dans les faits, ce que l'on constate, c'est que pour produire du poisson d'élevage, on est en train de vider la mer et de fabriquer avec le poisson capturé des farines animales qui servent à nourrir le loup, la dorade, etc. Donc ce n'est pas une solution. L'aquaculture n'est pas une solution durable. La solution, la vraie solution, c'est peut-être d'imaginer une aquaculture n'utilisant pas des farines de poisson, mais on n'en est pas là. C'est surtout de redonner à la pêche artisanale un poids qu'elle n'aurait jamais dû perdre en Méditerranée.
Mmh. On va faire une petite pause musicale. Donc avec une chanson qui est assez curieuse, je n'en connais pas la traduction, qui s'appelle Baba Bari, donc qui est une chanson qui est en arabe et qui a la particularité, elle vient vraisemblablement du Maghreb, mais elle a la particularité que selon les sources, elle est marocaine, tunisienne ou kabyle, on ne sait pas, mais les trois la revendiquent.
Baba Bahri, Baba Bahri, Yazidi, khalas wahli.
Je rappelle que vous êtes sur Radio Zazine, vous écoutez Mare Nostrum, qui est consacré aujourd'hui aux pêches en Méditerranée, avec Daniel Faget, qui est donc maître de conférence à la MMSH. Donc, on va poursuivre notre entretien avec, sur la Méditerranée. En préparant cette émission, je voyais, donc nous en parlions donc avant de commencer, que le WWF avait publié donc cet automne, au mois d'octobre, un rapport alarmant sur la Méditerranée pour relancer l'économie de la mer Méditerranée, juste au moment d'ailleurs où une conférence européenne sur le sujet avait lieu à Malte, conférence européenne qui s'appelle Our Ocean. Et dans ce rapport, j'ai relevé quand même que la Méditerranée fait vivre 150 millions de personnes sur le pourtour, mais le tourisme est à l'origine de 90% de la production économique. Et en plus, ce qui pose problème, c'est le tourisme agressif. Donc, ce qui fait qu'on a là posé le problème du partage de l'espace méditerranéen entre les différentes activités humaines, le développement de l'urbanisme, etc., etc., hein, qui est peut-être aussi un problème à régler pour justement arriver à trouver les éléments d'une pêche durable, équilibrée, et qui permettent de vivre pour ces pêcheurs.
Je dirais que l'on retrouve là bien la question des usages, hein, les usages de la Méditerranée, le partage des usages. Alors nous, sur la côte française, méditerranéenne française, nous en savons quelque chose parce que nous avons assisté depuis maintenant 50 ans à la multiplication de la construction de marinas, à la multiplication de constructions de ports de plaisance qui sont autant de lieux dans lesquels les habitats naturels ont été détruits, de lieux qui finalement ont amoindri les richesses naturelles, appauvri le milieu. Et ce que les géographes appellent des réclamations, hein, c'est-à-dire ces aménagements portuaires, ces marinas, on les retrouve tout autour de la Méditerranée, avec des résultats chaque fois identiques, c'est-à-dire finalement une dégradation des écosystèmes. Il est aujourd'hui urgent, effectivement, de repenser ces partages de l'espace. Alors, je dirais que, de toute façon, et je vais peut-être choquer en disant cela, mais la nature étant souveraine, la remontée des eaux qui est programmée et qui a commencé, hein, je rappelle quand même que la Méditerranée a pris 6 cm, est montée de 6 cm le niveau moyen depuis 10 ans. Donc, on peut penser que la plupart des marinas qui ont été construites dans les années 70 vont connaître dans les 20 ans, 30 ans, des problèmes de devenir, de survie tout à fait cruciaux, avec sans doute une renaissance de zones humides, avec des pathologies, le moustique, la malaria, avec finalement des structures immobilières qui perdront de leur valeur, une crise immobilière. Et donc dans ces conditions, il est évident qu'il faut repenser le tourisme, et le tourisme n'entre pas, s'il est pensé de manière durable, en contradiction avec les pêches. Je reste persuadé que l'on peut développer un tourisme de découverte, un tourisme culturel, un tourisme respectueux de l'environnement, parce que finalement, ce que nous aimons dans cette Méditerranée, c'est la découverte de l'autre, la découverte de sa cuisine, la découverte de ses techniques, c'est la découverte de paysages. Or, les pêcheurs sont les gardiens des paysages, un peu comme les agriculteurs sont les gardiens des paysages dans les campagnes européennes. Et nous avons besoin d'une pêche pour garder une Méditerranée vivante, et c'est un impératif vital. Si la pêche disparaît, le tourisme disparaîtra, parce que cela voudra dire que la Méditerranée est morte ou en très mauvais état. Et on ne peut pas penser que les millions de touristes qui viennent en Méditerranée tous les ans se satisferont longtemps d'un espace qui est devenu laid, qui est devenu agressif, voire dangereux, parce qu'il n'y aura plus aucun contrôle des zones littorales par la pêche.
Oui, donc on peut dire quand même que ces différentes activités occupant l'espace ont leur devenir qui est intimement lié. Hein, ce sont pas des activités qui sont côte à côte, mais ce sont des activités qui ont de toute façon un projet et un devenir qui est lié entre elles.
Alors, je voudrais simplement m'appuyer sur un exemple qui est vraiment d'actualité. Ah. C'est la ville de Sfax en Tunisie. Sfax, aujourd'hui, est sans doute la ville la plus polluée du bassin méditerranéen. Les mines de phosphate rejettent des produits hautement toxiques dans le golfe de Gabès. Or, il y a, de part et d'autre de Sfax, des pêcheries artisanales qui sont parmi les plus belles de Méditerranée. Je pense à des bordigues, je pense aux charfillas, qui sont des gros pièges à poissons calés au large. Et l'idée aujourd'hui, c'est de sortir Sfax de cette monoactivité chimique et d'imaginer un autre avenir pour Sfax. Et l'Union européenne est très intéressée par les propositions que peuvent faire les Tunisiens et aussi l'accompagnement qu'on peut leur apporter sur cette réflexion. Et on voit bien comment les choses sont liées, c'est-à-dire que si l'on veut qu'une ville comme Sfax garde un bassin d'emploi important, si on veut reconvertir la population ouvrière qui travaille dans les mines et dans les usines de transformation, il faut offrir autre chose. Et cette autre chose, c'est sans doute un tourisme durable en lien avec les patrimoines. Le patrimoine urbain, Sfax, c'est une des plus belles médinas de Méditerranée, mais le patrimoine aussi artisanal, la découverte des pêches, la gastronomie. Les Sfaxiens sont un peuple ichtyophage depuis l'Antiquité. C'est sans doute l'une des villes de Méditerranée où la diversité des préparations de poissons est la plus forte. Et je crois que tout ça, finalement, aujourd'hui, fait sens. Nous avons besoin de défendre ces secteurs traditionnels en Méditerranée parce qu'ils sont des secteurs d'avenir.
Oui, de toute façon, le développement de la Méditerranée et le maintien, sans même parler du développement, le maintien de la Méditerranée en dépend. C'est l'évidence même. Et donc, cette division de l'espace, cette utilisation de l'espace par différents agents économiques, nous amène également à parler d'une autre activité de pêche dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de l'évolution des pêches dites qu'on appelle les pêches spéculatives en Méditerranée. Il y en avait quand même quelques-unes. Tout à l'heure, on entendait cette chanson dont on n'arrive pas à savoir très précisément d'où elle vient sur les corailleurs. Il y a également la pêche des éponges. Est-ce que cette pêche spéculative qui a eu son importance à une certaine époque et ô combien quelle importance, et donc cette pêche spéculative, elle est aussi liée au même problème que la pêche des poissons, que le développement du tourisme, que l'appréciation des paysages et de l'occupation humaine, et où en est-elle aujourd'hui?
Alors vous avez raison, hein, ces pêches spéculatives qui étaient les pêches du corail rouge ou de l'éponge ont marqué l'histoire de la Méditerranée. Elles ont une très très grande importance. Il faut quand même se souvenir que ce corail, il était distribué jusqu'en Chine. Il était une monnaie d'échange dans le commerce méditerranéen, dans le commerce international. C'était en fait un produit monde, le corail. Les éponges, même chose. Hein, les éponges, on les retrouvait sur les marchés de Hollande. Et l'éponge de Méditerranée était aussi un produit très spéculatif. Or, ces deux pêches, le corail et les éponges, sont aujourd'hui des pêches profondément en crise. Le corail est une ressource qui s'amenuise, elle ne disparaît pas, mais le corail exploitable est de moins en moins fréquent, c'est-à-dire qu'on trouve du petit corail parce qu'il y a surexploitation, et puis il y a un braconnage aussi intensif sur les côtes d'Afrique du Nord. On pêche le corail aujourd'hui avec des roves, c'est-à-dire des petits sous-marins téléguidés. On pêche le corail aussi en Tunisie de manière interdite avec des câbles avec des mailles métalliques de très grande longueur sur lesquelles on attache des écheveaux de chanvre ou des vieux filets. Et en fait, on racle le fond avec ces câbles et évidemment, on détruit tous les habitats. Et donc, l'avenir du corail est très, très incertain en Méditerranée. Les éponges, c'est plus préoccupant encore. Parce que les éponges, qui ont été vraiment la raison d'être de communautés de pêche, de la mer Égée, du Dodécanèse, jusqu'aux côtes tunisiennes ou aux côtes libyennes, eh bien les éponges sont victimes, sans doute à cause du changement global, sans doute à cause d'un réchauffement des eaux, de maladies de plus en plus fréquentes, d'épidémies létales qui les font disparaître. Et aujourd'hui, on peut se demander si cette pêche aux éponges, cette pêche des éponges, a encore un avenir en Méditerranée. Alors, on y travaille, on enquête, on regarde. On a parfois un peu d'espoir qui revient parce que les éponges se renouvellent, elles se reconstituent. Et puis, de nouveau, une épidémie les emporte. Et ce mouvement de yo-yo, on le suit depuis maintenant une trentaine d'années avec l'impression que les choses s'accélèrent parce que cette Méditerranée, il est bien évident que nous voulons la sauver, mais elle est en prise aussi au changement global. Et la Méditerranée d'hier, celle que nous avons connue, il est fort probable qu'elle n'existera plus et que nous allons devoir nous adapter à une Méditerranée différente, y compris pour les pêches, dans les décennies qui viennent. Les choses ont commencé. Des espèces invasives sont de plus en plus nombreuses. Elles viennent de l'Atlantique Sud, elles viennent de la mer Rouge. Certaines posent des vrais problèmes pour la santé publique. D'autres sont profondément déstabilisantes pour les habitats. D'autres, enfin, peuvent nous laisser penser qu'elles seront une source bientôt d'exploitation économique. Et donc, tout ça change le visage de la Méditerranée. Et il va falloir que nous sachions nous adapter à cela.
Et oui, vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que vous aviez une équipe vers la Méditerranée orientale, là,
oui.
Hein, c'est ça, qui plongeait désespérément pour trouver des éponges.
Oui, ils sont actuellement en train de plonger à Chypre et effectivement, pour faire des inventaires, des échantillonnages, ils s'aperçoivent que les éponges ont quasiment disparu des pourtours de Chypre, ce qui est assez étonnant parce que c'était une des grosses zones de pêche il y a encore une cinquantaine d'années.
On va faire une petite pause musicale. Cette musique s'appelle Mikanikos. C'est en fait une musique, une danse traditionnelle des pêcheurs d'éponges de Kalymnos, qui est une des îles grecques célèbres pour sa pêche aux éponges. Et la particularité, c'est que cette musique est accompagnée d'une danse dans laquelle, qui ressemble un peu au sirtaki. D'ailleurs, je pense que mon invité m'a dit que ça datait d'à peu près ce moment-là, d'à peu près cette période-là. Et dans cette danse du sirtaki, il y a un des danseurs qui, en fait, danse avec d'énormes difficultés, avec une canne tout en tremblant, et qui montre l'accident qui est survenu pour ce pêcheur. Et cet accident, il est dû tout simplement à la mécanikos, c'est-à-dire à la mécanique.
C'est-à-dire la machine, ce que les pêcheurs grecs appelaient la machine, et ce que nous appelons le scaphandre pied lourd,
voilà.
Le scaphandre que l'on voit dans Tintin et le trésor de Racam le Rouge.
Et voilà, c'est ça, et qui a tué la pêche traditionnelle.
Alors, qui a tué la pêche traditionnelle, et c'est une histoire sur laquelle il faut revenir brièvement, parce que je pense qu'elle peut intéresser. Lorsque le scaphandre a été introduit dans les îles grecques, dans le Dodécanèse, c'est-à-dire c'était encore l'Empire ottoman, nous sommes en 1864-1863, et des négociants français décident d'introduire auprès des communautés le scaphandre. La réaction des pêcheurs grecs, des plongeurs à nu, parce qu'à l'époque on plongeait à nu avec une pierre pour descendre jusqu'au fond de la mer, a été très brutale. Se sont produits des mouvements de résistance violente dans les îles grecques. Les plongeurs ont détruit les scaphandres. C'est un exemple d'ailleurs sans doute unique de ludisme, de destruction des machines par des travailleurs. On a détruit les scaphandres et ces scaphandres n'ont finalement été imposés que par une intervention militaire française à Kalymnos, une frégate qui est arrivée à Kalymnos et qui a imposé en fait aux communautés non seulement de rembourser les machines sur leurs deniers, mais aussi de les utiliser. Et le résultat a été une véritable hécatombe. Au début du XXe siècle, il arrive que sur les bateaux qui partent en campagne de pêche aux éponges, en particulier quand ils partent plonger sur les côtes de Libye, il arrive que 20% des plongeurs ne reviennent pas en un été. Hein, donc on peut parler d'une activité extrêmement meurtrière. Elle a été meurtrière pour les hommes, sans doute la pêche la plus meurtrière de Méditerranée. et meurtrière aussi pour la ressource, puisque les plongeurs avec scaphandre sont évidemment restés plus longtemps au fond, sont descendus à des profondeurs plus importantes et ont contribué à faire disparaître finalement la ressource ou à l'appauvrir.
Oui, avec tout loisir donc de prendre tant et plus, alors que le plongeur à nu, il a une limite, c'est sa capacité respiratoire, quoi, hein. C'est ça, bien évidemment. On va peut-être, dans le moment qui nous reste, on va peut-être évoquer finalement, essayer de comprendre s'il y a des solutions. Quelles sont ces solutions? Est-ce qu'elles sont techniques, politiques, biologiques peut-être, je ne sais pas, qui sont envisagées? Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait une conférence européenne. Je ne suis pas certain que la conférence européenne cette conférence émerge forcément des solutions qui soient efficientes. Mais je pense que le chercheur que vous êtes a peut-être quelques idées dans le travail pluridisciplinaire que vous faites. À ce propos-là, donc sur la révision de ces politiques de pêche pour essayer de faire en sorte que les espèces soient préservées, l'activité soit préservée également.
Ça nous renvoie à plusieurs registres de réflexion. Le premier, c'est celui évidemment des politiques communautaires. Ce que l'on voit se mettre en place aujourd'hui au sein de l'Union européenne, ce sont des politiques de licences de pêche. Et ces licences de pêche qui sont attribuées aux patrons pêcheurs, ce sont des licences qui prévoient un type de pêche particulier pour une espèce particulière. Ces décisions de licences de pêche sont dénoncées de la Catalogne jusqu'à l'Italie du Sud par les pêcheurs. Parce que le propre de la pêche méditerranéenne, c'est la polyvalence. Nous avons affaire à des pêcheurs qui, en fonction des saisons, en fonction des opportunités, s'il y avait des bancs de poissons ou pas, étaient capables de varier leurs pratiques, de changer de pratique.
Oui, donc cette politique communautaire fondée sur les licences pose problème, bien sûr, à propos de d'une pêche plus durable.
Oui, c'est ce que réclament souvent les artisans, les patrons avec qui on discute. Hein, ils nous disent, mais c'est une absurdité parce que nous devons pouvoir nous adapter, nous devons pouvoir changer d'outils, d'engins en fonction de la saison. Nous l'avons toujours fait, nous savons le faire. Et ça n'empêchera pas de réguler l'effort de pêche. Parce que la deuxième idée, je crois, importante, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument associer les pêcheurs aux décisions qui se prennent et il faut en faire des acteurs des politiques, y compris des politiques scientifiques. Je crois qu'on ne mesure pas à quel point les pêcheurs sont des sentinelles de l'environnement. Ce sont des gens qui, parce qu'ils sont sur la mer tous les jours, sont capables de distinguer la moindre variation de la ressource, la moindre anomalie. Aucun de nos laboratoires ne pourra jamais mettre une équipe sur la mer comme le sont les pêcheurs en permanence. Et donc, nous devons travailler avec eux. Et en tout cas, moi, en tant qu'historien, ce qui me motive et ce qui, je trouve, tout à fait enthousiasmant, c'est de participer à des programmes qui sont ainsi interdisciplinaire et ouvert sur le monde professionnel pour échanger, pour discuter. Et on s'aperçoit que finalement, les pêcheurs sont très attentifs à ce que nous pouvons leur raconter sur l'histoire d'une pêche qu'ils ignorent. Hein, c'est-à-dire que la mémoire des pêches est une mémoire courte. Et souvent, ils sont très étonnés quand je leur explique qu'à tel moment, eh bien, ça s'est passé comme ça dans une prud'homie, et qu'il y a eu des conflits violents, et que tel engin n'était pas pratiqué, que tel engin est apparu à tel moment particulier. Ils sont très intéressés. Et de cette participation à des programmes interdisciplinaires, ouverts sur le monde professionnel, on arrive à trouver et à proposer des solutions, et à faire sortir des solutions qui me semblent des solutions d'avenir. Voyez, nous avons parlé tout à l'heure des aires marines protégées. Les aires marines protégées n'auraient aucun sens si on ne les destine qu'à faire joli dans le paysage et à amuser les plongeurs sous-marins. Les aires marines protégées, à mon avis, leur première fonction, c'est de fournir de l'alimentation et de permettre d'assurer des pêches convenables et un approvisionnement des marchés convenable. Il en va de notre responsabilité. Je crois que c'est vraiment ce qui doit nous motiver. Il faut le dire très fort. Et ça, ça ne pourra pas se faire sans les pêcheurs.
Et oui, bien évidemment. Oui, donc ce n'est pas simplement un lieu touristique, un lieu de tourisme. Voilà, c'est surtout pas ça d'ailleurs, on pourrait dire presque.
Oui, je crois qu'il faut l'affirmer haut et fort et dire une fois pour toutes que les yachts ne sont pas solubles dans les écosystèmes et les marinas non plus. Hein, et donc, la priorité, c'est d'aider ceux qui font un pays vivant et une mer vivante. Et ceux qui font une mer vivante, c'est ceux qui l'exploitent. L'exploitent pour ses ressources et qui ont intérêt à ce qu'elle demeure vivante.
Et est-ce qu'il y aurait intérêt à exercer un contrôle un peu plus strict sur ce qui se passe sur les littoraux? Est-ce que, par exemple, ce qui a été fait en France avec la loi littorale peut avoir son importance dans la mise en place d'une politique globale pour sauver, en quelque sorte, la Méditerranée?
Certainement, mais je crois que il y a un problème que nous n'avons pas évoqué au cours de cette émission, c'est celui de la pêche de loisirs. La pêche de loisirs va devoir être sévèrement réglementée dans les années qui viennent parce que nous avons affaire à une pression anthropique sur le milieu qui n'est pas tenable. Les tonnages de pêche en Méditerranée française aujourd'hui, hein, c'est-à-dire ce que l'on capture en Méditerranée déclarée, nous sommes aux alentours de 30 000 tonnes par an. La pêche de loisirs, l'estimation des dommages causés par la pêche de loisirs et des tonnages de capture, aussi entre 5 et 10 000 tonnes par an.
Ah oui, ça, c'est voilà. Du domaine du tiers, à peu
et
près. Oui,
et c'est une pêche qui n'a aucune rationalité économique. C'est-à-dire qu'un pêcheur professionnel, si la pêche n'est pas rentable, il arrête. Un pêcheur amateur... il peut pêcher jusqu'à ce qu'il y ait le dernier poisson à prendre en Méditerranée, parce qu'il n'en vit pas, ce n'est pas pour lui important. Et donc ça échappe à toute rationalité économique. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut, ça va être douloureux, ça va être difficile à expliquer, mais je crois qu'il y a vraiment une démarche de pédagogie à mener auprès du grand public. La pêche de loisirs doit être sévèrement réglementée.
Voire interdite ?
Non, interdite, pas, je ne crois pas, parce qu'elle fait partie de l'identité des Méditerranéens,
oui, bien sûr.
Mais réglementée. Mm-hmm. Vous savez, un bateau de loisirs aujourd'hui, c'est un sondeur, c'est des moteurs très puissants, c'est-à-dire qu'on n'a plus affaire à des gens qui autrefois partaient à la rame ou à la voile pour taquiner la girelle. Aujourd'hui, on a affaire à des pêcheurs de loisirs qui sont capables, avec des moulinets électriques, d'aller pêcher sur les têtes de canyons à 300 mètres de fond.
Oui.
Et donc, on a changé de modèle, on a changé de nuisance. Et de fait, on ne peut pas continuer ainsi.
Oui, l'équipement est tel que c'est une concurrence directe.
C'est une concurrence directe.
Aux pêcheurs professionnels.
Bien sûr.
Oui, donc c'est effectivement problématique. À propos du tourisme, globalement, et du bétonnage, on va dire, là aussi, il y a une réduction... drastique, enfin en tout cas, ou un gel drastique de ce qui se fait actuellement, parce que ça concourt là aussi. Quand on voit la conquête de nouveaux territoires sur la mer pour construire une marina, etc., c'est pas quelque chose qui, à mon sens, doit beaucoup aider les endroits où les poissons vont nicher, etc.
Oh, c'est quelque chose qui a eu des effets désastreux depuis une quarantaine d'années. Hein. La multiplication des ports de plaisance, des marinas, s'est faite toujours au détriment des herbiers de Posidonie en particulier. Or, les herbiers de Posidonie, hein, c'est-à-dire ces herbes marines hein, que l'on retrouve en Méditerranée, qui sont une espèce endémique de Méditerranée, ces herbiers sont un ingénieur d'écosystème. Si les Posidonies disparaissent, la Méditerranée mourra. Or, les herbiers de Posidonie, depuis 40 ans, ont énormément régressé sous les coups des constructions, des aménagements littoraux, d'une pratique aussi de la plaisance avec des ancrages sauvages qui détruisent les herbiers, d'une turbidité qui augmente à cause de la pollution. Il y a là des choses qui sont très préoccupantes et de fait, la pratique du tourisme de masse, l'urbanisation du trait de côte, doit absolument être contrôlé. Il faut, y compris peut-être, réhabiliter des zones lagunaires qui ont été abîmées. Ça, c'est fait. On a un exemple en Méditerranée. Curieusement, cet exemple ne se trouve pas sur la rive nord, mais sur la rive sud. C'est la lagune de Tunis, qui était, il y a encore une trentaine d'années, une quarantaine d'années, un immense cloaque. Or, c'est pas nouveau, hein. C'était un cloaque depuis le Moyen-Âge. Or, les Tunisiens ont, les Tunisois, hein, la collectivité tunisoise a décidé de réhabiliter la lagune de Tunis. Alors ça s'est fait en collaboration avec des opérations de spéculation immobilière, puisque ça a été le prétexte aussi de construction de quartiers nouveaux autour de la lagune. Mais en Tunisie, on a fait une chose absolument extraordinaire. On a curé le fond de la lagune qui était chargé de métaux lourds. On a isolé ces produits polluants dans une chaussette hermétique. Et puis, on a ouvert plus largement l'accès à la mer, ce qui fait que les courants se sont rétablis, des pêcheries se sont rétablies, et qu'aujourd'hui, on pêche dans la lagune de Tunis.
Ah oui, donc, c'est remarquable.
Ce que l'on a fait à Tunis, on pourrait le faire avec l'étang de Berre. Et vous voyez où je veux en venir.
Oui, et oui, oui.
Qui est, pour nous, le gros problème écologique dans notre région. L'étang de Berre était une zone extrêmement riche en poissons jusqu'à l'ouverture du canal EDF qui débouche à Saint-Chamas. L'ouverture du canal, plus que celle des usines d'ailleurs, c'est pas la pollution des usines qui a tué le poisson dans l'étang de Berre, c'est l'alluvionnement à cause de l'eau douce et la désalinisation de l'eau. Et donc le grand chantier que l'on pourrait proposer aujourd'hui, pour les 10 ans qui viennent, ce serait un détournement du canal EDF de Saint-Chamas en direction du Rhône, qui rendrait à l'étang de Berre son taux de salinité qui est indispensable pour un retour du poisson de mer, hein, du poisson qui a besoin de cette salinité. Je pense en particulier aux dorades, je pense aux bars, qui étaient autrefois innombrables dans l'étang. C'est un grand chantier. C'est un grand chantier qui est soutenu. Hein, le projet est soutenu par nombre d'élus autour de l'étang de Berre. Et je crois que ça fournirait en plus des milliers d'emplois, d'ingénierie, de travaux publics, pour une cause environnementale qui serait observée dans toute la Méditerranée avec beaucoup d'attention.
Quel beau projet. Figurez-vous que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Quand je m'approche de l'étang de Berre, je suis toujours émerveillé par le site et désolé par ce que l'industrie et EDF en ont fait par la suite, ce qui est vraiment dommage parce que c'est un lieu magnifique, je trouve.
Un lieu magnifique, c'est un lieu qui est cher à tous les Provençaux qui ont un certain âge parce qu'ils se souviennent de pêches miraculeuses, de pêches aux oursins en particulier sur les herbiers de l'étang. Et c'est un lieu, si nous réussissons à réhabiliter l'étang de Berre, ça ouvrira sans doute la voie à une réhabilitation, par exemple, de la grande lagune de Bizerte qui est dans un état écologique aussi désastreux.
Alors donc, on peut terminer sur une note optimiste en espérant qu'on nous écoute et que...
Soyons optimistes.
Et voilà, ça, c'est un projet, on fait appel un peu à tous les gens qui ont des responsabilités politiques. Il faut réhabiliter l'étang de Berre et c'est une nécessité absolue. Pour terminer, on va faire une dernière pause musicale qui va clôturer cette émission. C'est pas en Méditerranée, mais je tenais quand même à le passer. C'est la romance de Nadir, bien sûr, des pêcheurs de perles de Bizet. C'est magnifique, c'est par Alania en plus.
Je crois entendre